L'oubli succède l'indifférence de l'oubli, comme un écho muet qui prolonge la durée et augmente l'espace de l'oubli. Jacques Ferron, né le 11 janvier 1912 à Houille, décédé le 20 janvier 2009, est un homme politique français, député de Paris. Il a été président du Centre national des indépendants et paysans. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 29 octobre 2022. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien, dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Notre thème du jour, les oubliés de l'éducation nationale. Pour cela, nous recevons Madame Abraham Sophie, déléguée SNUP IPP FSU pour le secteur de Crépy-en-Valois, et Madame Aubigny Véronique, AESSH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc nous allons d'abord demander à Sophie et à Véronique de se présenter.
Bonjour Véronique.
Bonjour, Sophie Abraham. Alors, juste une petite précision, je suis déléguée du SNUIPP FSU, mais je suis aussi enseignante. C'est important de le préciser. Le SNUIPP, c'est un engagement militant, mais au quotidien, mon métier, c'est d'enseigner. Et j'enseigne en maternelle à Crépy-en-Valois.
D'accord. Quelle classe
Alors, cette année, j'ai des petits moyens, mais ça change tous les ans, parce qu'en fait, je fais les décharges de services de direction. Donc, j'ai la chance de changer régulièrement.
D'accord. C'est assez divers, en fin de compte.
Voilà. Mais bon, ça reste dans le champ de la maternelle.
Oui. Véronique, tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'AESH Tu es exactement localisée où, dans l'Oise?
Donc, je travaille sur le pial de la Croix-Saint-Ouen. Donc c'est le PIAL, c'est le pôle qui réunit l'ensemble des établissements auxquels sont affectées des écoles et sur lesquels on peut travailler. Donc personnellement, je travaille à l'école du Meux et au collège de la Croix. Donc certains jours à l'école, un autre jour au collège. On peut être affecté en fonction des besoins sur d'autres écoles du secteur.
D'accord, donc c'est une journée entière au collège, une journée entière, donc tu n'as pas à faire la navette, parce qu'on voit souvent des AESH sont pris d'un côté le matin et de l'autre, tu connais des cas comme ça
Oui, je connais beaucoup de cas, j'ai des collègues qui se déplacent par exemple le midi à qui on ne laisse pas le temps de manger ou de se déplacer, alors que normalement les temps de déplacement et le temps de repos doivent être comptabilisés dans le temps de travail.
D'accord, donc elles ont bien écouté Papniad, en fin de compte elles travaillent pendant l'heure méridienne. Donc on en reparlera de toute façon. Gérard, t'as pas un petit billet d'humour ?
Si, un petit billet d'humour. Je disais que... Pourquoi parler d'éducation nationale? On devrait dire enseignement national. Donc pour notre ministre, éduquer l'éducation, éduquer l'enseignement ou enseigner l'éducation, de toute façon, ce ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous créer une loi pour que lui, on ne l'oublie pas.
Ça, c'est vrai. Mais ils aiment bien.
Tu peux nous présenter le thème du...
Mais bien sûr, donc les oubliés de l'éducation nationale. Alors, entre les professeurs, les directeurs d'école, les personnels d'inspection, les personnels sociaux et de santé, les médecins, les accompagnants des élèves en situation de handicap comme Véronique, donc AESH, les conseillers principaux d'éducation, les personnels des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, ce qu'on appelle les RASED, les agents territoriaux spécialisés d'école maternelle, les ATSEM, les personnels administratifs, les personnels techniques, etc., etc. Et tout ce monde représente environ 1 162 850 personnes. Si on fait un rapprochement avec Total Energy, on parle beaucoup de Total Energy en ce moment, qui compte plus de 100 000 employés dans plus de 130 pays, on peut dire que l'éducation nationale est une entreprise importante, sauf qu'il n'y a pas d'action. Fallait la faire, celle-ci. Le mécontentement des professeurs enfle en ce début d'année scolaire par rapport au salaire, à l'attractivité du métier, mais surtout le fait d'être ni écouté, ni compris par leur ministère. On parle d'une revalorisation des salaires des enseignants pour 2023, mais à quel prix? Alors avant de laisser la parole, on va écouter juste ceci.
Je suis frappé par le niveau de violence qui peut exister dans les cours de récréation au moment de la pause méridienne. Et donc là, il nous faut agir, y compris dans le cadre des nouvelles missions que nous allons confier aux professeurs sous forme facultative. Je suis très attentif à ce niveau de violence, pas forcément physique, mais niveau de violence verbale.
Ça veut dire qu'ils pourraient participer à la surveillance des moments de pause.
Ce sont des choses que nous allons discuter, bien entendu, avec les organisations syndicales.
Voilà, donc surveiller ou manger, va falloir choisir, hein, désolé pour vous. Bon, il est un peu revenu sur ses propos, mais bon, je pense que le mal est fait. À l'écoute de cette intervention du ministre, quelle est votre réaction l'une et l'autre? Qui veut commencer? Allez,
oh ben, je vais peut-être commencer parce que je suis plus directement concernée en tant qu'enseignante. Bon, je crois que ces déclarations médiatiques, elles ont frappé tout le monde dans le sens où ça traduit quand même une forme de méconnaissance de ce qu'est la réalité du métier d'enseignant et d'enseignante. Sur le temps de midi, je crois qu'il y a un député qui a fait la liste de tout ce qu'on a assumé sur cette pause méridienne. On a assumé les corrections de copies, on a assumé les temps de concertation, on a assumé l'aide personnalisée aux élèves, ce qu'on appelle l'APC, les activités pédagogiques complémentaires, plein de multiplication de plein de petites tâches.
Des fois, vous recevez aussi les parents.
Parfois, on reçoit aussi les parents quand les parents n'ont pas la disponibilité ni le matin ni en fin de journée. Donc, on assume énormément de tâches sur cette pause méridienne. Et en plus, sur le temps de pause méridienne, c'est quand même un temps qui est normalement pris en charge par les personnels de la collectivité territoriale. Donc les enfants sont déjà pris en charge par des personnels.
Sont formés pour ça.
Des animateurs, des animatrices ou bien les ATSEM hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ne font pas partie du contingent des personnels de l'éducation nationale mais qui sont rattachés aux collectivités territoriales.
D'accord.
Donc ces personnels-là travaillent et ça leur assure par ailleurs un complément de traitement. Hein,
D'accord, donc elles sont salariées, en fin de compte des mairies, etc.
Alors, elles ont pour certaines d'entre elles, hein, pas toutes, à assurer ce temps de surveillance de la cantine et après la cantine. Mais ça peut aussi être assuré par des animateurs, des animatrices de la collectivité. Et ça peut aussi être assumé par les enseignants et les enseignantes qui, eux, sont payés en plus pour ça et ont des contrats municipaux. Mais ça ne dépend pas du temps de l'éducation nationale, ce temps de midi.
D'accord. Oui, parce qu'effectivement, nous, on le voit, de temps en temps, il y a des professeurs qui accompagnent les enfants à la cantine, effectivement. Je vais demander donc
on peut voir Véronique. On peut voir aussi certaines AESH qui sont contraintes de surveiller des élèves pendant le temps de midi, parce que, soi-disant, leurs élèves sont à la cantine.
Alors, tu t'occupes, oui, des élèves des ayant un handicap.
Un handicap. Pour certaines, c'est pas comptabilisé plus que ça. On leur dit qu'elles doivent y être et par manque d'informations, elles y vont.
Mais ne sont pas payées alors.
Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus des mairies qui s'en occupent. À l'arrivée, elles se retrouvent avec une absence de temps de pause. Donc elles enchaînent la matinée avec les élèves en classe, le temps du repas avec les élèves à la cantine, la surveillance de la cour de récréation, et ensuite elles enchaînent avec l'après-midi. Donc pas de temps de pause. Mais ça paraît normal à tout le monde, sauf que ça ne l'est pas.
Oui, tout à fait. Oui, tout le monde a le droit d'avoir son heure. Je crois que c'est je me retourne vers Sophie. C'est 1h ou 1h30 obligée dans ce cas-là Que dit la loi là-dessus?
Alors, le temps de pause méridienne, il est cadré par rapport aux élèves. C'est-à-dire que les élèves ont droit à 1h30 de pause méridienne incompressible. Donc, pendant ces 1h30 de pause méridienne, ils n'ont pas normalement de temps d'enseignement. Après, pour les personnels, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que nous, on est sur notre lieu de travail, on continue à travailler sur le temps de midi. Et bien évidemment, on veut continuer à pouvoir manger et avoir un temps pour souffler aussi.
Pour les AESH, je pense que c'est 20 minutes légalement.
20 minutes seulement.
Ouais.
Ah, effectivement, c'est pas beaucoup.
Hein. Non, c'est pas beaucoup. Non.
C'est pas énorme, hein. Faut manger vite. Hein. Effectivement. Au niveau des professeurs, des enseignants avec qui tu travailles, ils sont comme toi. Ils ont exactement eu la même réflexion quand ils ont entendu Pape Niad parler ainsi dans les médias.
Je crois que l'ensemble des collègues est particulièrement choqué parce que ça entretient quelque chose qui est quand même assez récurrent, une sorte de prof bashing avec l'idée, on va dire, un peu fantasmée qu'on aurait un temps de service qui serait uniquement calé sur le temps d'enseignement dispensé aux élèves, alors qu'un certain nombre d'études ont montré qu'un professeur ou une professeure travaille en moyenne 44 heures par semaine. Il y a une étude de l'ADEP qui a confirmé quelque chose.
C'est quoi l'ADEP ? Excuse-moi.
Alors, c'est la Direction de l'éducation, de la prospective, enfin, le dernier P, je ne sais plus, peut-être pédagogique qui traîne dedans. Enfin, bref, c'est quand même un organisme qui émet régulièrement des études, qui est un organisme qui est reconnu en interne par l'Éducation nationale, qui étudie particulièrement la question des parcours des élèves. Mais là, en l'occurrence, on a une évaluation de l'ADEP qui dit, en gros, il y a 44 heures de travail effectué par les professeurs. Donc il y a bien évidemment le temps d'enseignement dispensé aux élèves, mais il y a aussi tout ce qui est à la périphérie. Le temps de préparation, le temps dont je parlais tout à l'heure sur le temps méridien, le temps de concertation, le temps d'échange avec les familles, tous les petits à côté dont on parle peu, mais qui prennent quand même, on va dire, un temps assez conséquent, l'organisation de la classe au plan spatial, au plan pédagogique, la préparation du matériel. Enfin, on a une multiplication de tâches qui font que, tout mis bout à bout, on a quand même un temps de travail hebdomadaire qui est de 44 heures. Merci. Donc, nous demander de travailler plus pour gagner plus, c'est non. Alors qu'on sait la réalité du niveau de rémunération des enseignants et enseignantes qui, par rapport à nos homologues européens, est quand même largement inférieur.
Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il parle du temps méridien en parlant effectivement de la violence, etc. Alors on vient à parler aussi des cours de récréation. Là aussi, on ne laisse pas les enfants seuls dans la cour. Il faut quand même prévenir les parents qu'il y a toujours, toujours des enseignants ou des enseignants notamment hein, en maternelle et en primaire qui se retrouvent dans la cour. Donc effectivement, c'est un temps encore où il n'y a pas d'arrêt de travail, si on peut dire ainsi.
Bah, écoutez, de toute façon, les personnels territoriaux, ils surveillent la cour, tout comme les enseignants le font sur les temps de récréation. C'est-à-dire que les enfants sont jamais laissés seuls. Voilà. Alors,
c'est vrai que mais il faut le spécifier aussi pour nos auditeurs, auditrices.
Donc c'est vrai que le temps de midi, c'est un temps qui peut être accidentogène parce que bon bah il y a quand même un temps de enfin les enfants ont quand même un temps d'enseignement quand même important dans la journée. Cette pause méridienne, elle peut être un moment où il y a des accidents qui sont liés à la fatigue à un moment donné surtout chez les enfants les plus jeunes. Mais bon, de toute façon, il y a toujours un adulte ou plusieurs adultes qui sont présents dans les lieux où les enfants sont sur un temps de récréation et qui surveillent. Ils ne sont jamais laissés seuls.
Voilà.
Et en plus, la plupart du temps, les employés de la collectivité mènent des activités sur le temps postérieur à la cantine. En règle générale, les enfants ne sont pas laissés livrés à eux-mêmes dans la cour. Enfin, ils ne sont pas à l'abandon, et en tout cas pas sans surveillance.
Non, mais alors, cette soi-disant violence, elle a toujours existé.
Oui.
Moi, je me rappelle...
Longtemps.
Oui, il y a très longtemps, mais quand on est dans la cour, il y avait toujours quelques frictions. Mais bon, ça a toujours existé, je ne vois pas...
Mais ce genre de propos qu'ont à chaque fois les ministres, qui, même les précédents, hein, à faire toujours passer les enseignants pour des feignants, ils ont tant de vacances. Là, vous êtes en vacances scolaires. Comment que ça se passe ? Je suppose que vous préparez peut-être à l'avance vos cours, peut-être que vous faites des corrections. Comment que ça se passe pendant les vacances scolaires ? Est-ce que vous vous reposez réellement ?
Ah bah, il y a de toute façon un temps de récupération qui est nécessaire.
Tout à fait.
Moi, je vois de plus en plus les collègues me dire que à l'issue d'une période d'enseignement, il y a un état de lassitude et de fatigue qui est de plus en plus important. On a quand même un métier qui s'est complexifié avec des tâches de plus en plus importantes à effectuer, une mission de plus en plus difficile avec des conditions qui se sont dégradées en termes d'encadrement, d'effectifs. Donc on a un état d'épuisement à la fin d'une période d'enseignement qui est quand même relativement important. Donc il y a nécessité d'avoir un temps de récupération. Ces vacances-là, elles sont bien évidemment nécessaires de ce point de vue-là. Après, pendant les vacances, on est sur le pont. Hein. On prépare la période suivante. Pas plus tard, moi, que mardi après-midi, j'ai retrouvé mes collègues pour préparer la période à venir. Donc on a passé une après-midi entière à l'école, à échanger, à discuter, à construire ensemble la programmation de la période qui vient. Donc pendant les vacances, bah oui, on prépare matériellement la classe, on range, on programme, on travaille. Donc on a un temps de repos nécessaire, et puis on a aussi un temps de travail sur nos temps de vacances.
Alors moi, je voulais poser la question suivante. Alors, pour Véronique, comme pour Sophie, au niveau des formations, est-ce que souvent l'éducation nationale profite qu'il y ait des vacances pour vous donner quelques jours de formation ou pas ? Ça vous arrive ?
Non, personnellement, des formations pour les AESH, à part les 60 heures de la première année, il y a des formations qui sont proposées, mais les mercredis après-midi. Et je trouve que c'est révoltant parce que, en tant qu'AESH, on a un salaire qui est très petit.
Ça vous embête de nous dire combien touche une AESH que... Alors, sinon, tu le dis pas, il n'y a aucun souci.
Alors, en moyenne, une AESH qui débute touche 850 euros.
Pour combien d'heures ?
24 heures.
4.
Personnellement, j'ai la chance d'avoir plus d'heures et de l'ancienneté, donc j'ai un peu plus. Donc beaucoup de mes collègues, qui sont parfois maman seule, ont forcément besoin de travailler en plus et travaillent, disposent du mercredi après-midi, donc travaillent le mercredi après-midi.
Oui, puis du coup, c'est des frais supplémentaires parce qu'il faut faire garder les enfants quand ils sont en bas âge.
Ben voilà. Et donc, mes collègues ne peuvent pas faire ces formations les mercredis après-midi et pendant les vacances, puisque c'est du temps qui est consacré à un autre emploi pour compléter, avoir un salaire, avoir un niveau de vie qui permette de subvenir aux besoins de la famille. Donc, les formations en dehors du temps de travail, je trouve ça choquant pour les AESH.
D'accord. Je sais que les professeurs, des fois, ont aussi des formations le mercredi après-midi. Donc, on se retrouve dans le même cas de figure que
Véronique. Oui, sauf que nous avons un salaire tellement faible que nous sommes obligés d'avoir des emplois à côté.
À côté, d'accord. Tu veux répondre à ma question, Sophie ? Vos formations, c'est souvent le mercredi après-midi ? Ou est-ce qu'on profite que vous soyez en vacances, vacances scolaires pour faire des formations ?
Alors, en fait, il faut différencier deux types de formations. Il y a ce qu'on appelle les animations pédagogiques, qui sont des animations pédagogiques qui se déroulent sur le temps de service. Alors, elles peuvent être effectivement programmées en fin de journée, elles peuvent être programmées le mercredi matin, le mercredi après-midi. Mais ça fait partie de nos obligations réglementaires de service. On a un service de 24 heures d'enseignement plus 108 heures annualisées. Donc, ces animations pédagogiques, elles font partie des 108 heures annualisées. Alors, ça peut poser des problèmes d'organisation personnelle, mais normalement, elles doivent être anticipées. Elles sont organisées au niveau de la circonscription et elles sont sur notre temps de service. Après, on a ce qu'on appelle la formation continue des personnels, auquel tout fonctionnaire, normalement, a le droit. Nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, on peut candidater à des dispositifs de formation continue. Sauf que le souci majeur qu'on a depuis un certain nombre d'années, c'est que par défaut de moyens de remplacement, on nous propose de plus en plus souvent des stages de formation qui ont lieu sur le temps des vacances. Alors ça, bien évidemment, nous, la profession, rejette cette proposition, dans le sens où on considère, effectivement, qu'on doit prendre sur notre temps de vacances personnel pour nous former. Alors qu'auparavant, on avait un contingent de personnel, de remplacement, qu'on appelait les brigades de formation continue, qui maintenant sont amenées à effectuer du remplacement tout venant, remplacement court, remplacement de longue durée, parce qu'on n'a pas eu de création suffisante de postes de remplacement, ou alors on est allé ponctionner dans les postes de remplaçant pour aller abonder les postes devant les classes. Donc nous, en tout cas, dans mon organisation, nous, on refuse que la formation continue, elle soit prise sur du temps personnel. La formation continue, elle doit être accordée à chaque... on a le droit à 36 semaines dans une carrière. Là, au rythme où la formation continue va, aucun personnel enseignant n'aura ses 36 semaines à l'issue de sa carrière. C'est pas possible. On nous propose des dispositifs de 2 jours par-ci, par-là, sur du temps personnel. Donc, au bout du compte, ce à quoi on devrait avoir le droit, toutes et tous, on va en être privés.
Voilà, donc vous n'aurez pas de formation. Ces formations, c'est souvent pédagogique ou pas du tout ? Ou c'est peut-être souvent on parle de la laïcité ou...
Alors ça peut être sur plein de sujets différents. Alors normalement, c'est nous qui choisissons sur quel sujet on souhaite être formé. Mais bon, l'offre de formation, elle est de plus en plus réduite. Je vous dis, elle se déroule sur 1 à 2 jours. Donc on peut pas appeler ça de la formation continue. La formation continue, c'est un aller-retour entre la formation, la pratique de classe. On revient dessus. Là, sur 1 ou 2 jours, et puis ça peut être sur plein de sujets différents.
Voilà, bon, je pense que tout est dit. On a répondu donc à M. Papniad. Donc, le mouvement des stylos rouges, qui est né en décembre 2018, je pense que tout le monde s'en souvient, est un groupe autonome de défense des personnels de l'éducation et dès 2020, il revendiquait déjà une hausse des salaires, une amélioration des conditions d'études des élèves et des conditions de travail des professeurs et des personnels d'éducation. En septembre 2021, le mouvement alerte sur la pénurie de personnel dans l'éducation nationale. Les divers syndicats du premier ou second degré vont donc se joindre sur cette thématique, et que faire pour se faire entendre? Quelles seront les prochaines actions à mener? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les stylos rouges, on entend beaucoup moins parler. Les médias, on ne les voit pas du tout sur les médias. Qu'est-ce que vous aviez pensé de cette action des stylos rouges déjà?
Moi, j'ai envie de dire que la question des revendications salariales, elle n'est pas nouvelle et elle n'a pas été portée exclusivement par les stylos rouges. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a émergé à un moment donné.
Les gilets jaunes, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Oui, je ne ferai pas de lien direct entre les deux parce que je ne suis pas sûre que sociologiquement les mêmes publics. Mais on va dire que c'est un peu dans cette mouvance, on va dire, de construire quelque chose un peu en dehors des cadres traditionnels. Mais en tout cas, la question salariale, elle a toujours été portée par les organisations syndicales et elle n'est pas nouvelle. Sauf qu'elle a pris une acuité particulière dans la période, parce qu'avec le gel du point d'indice, qui dure quand même depuis 2010, même si on a eu 1,2 revalorisation en 2016, et là, très récemment, la revalorisation de 3,5%, on voit bien qu'on est quand même très loin du compte. En gros, le rattrapage salarial aujourd'hui, pour compenser les pertes, il faudrait d'ores et déjà avoir 15% de plus pour l'ensemble des fonctionnaires. Donc ça, c'est la rémunération de base de l'ensemble des fonctionnaires et donc les enseignants, enseignantes, mais aussi tout personnel fonctionnaire y est soumis ou soumise. Le problème, c'est que depuis un certain nombre d'années, on n'a que des revalorisations ponctuelles liées à des missions particulières, liées à des primes, ce qui génère quand même des écarts substantiels entre les personnels, entre les femmes et les hommes, par ailleurs, puisque les primes sont plutôt liées à des missions qui sont plutôt effectuées ou accessibles à des personnels de sexe masculin. Donc ça génère aussi des inégalités très fortes entre les personnels.
Décidément, même là, hein.
Oui, même là. Même chez les fonctionnaires, il y a des inégalités salariales.
Alors, a priori, on avait fait une émission avec l'armée. Et l'armée, il n'y a pas cette différence entre hommes et femmes. Donc, on pourrait peut-être faire un effort au niveau des fonctionnaires aussi. Il
faudrait regarder ça de plus près. Je ne suis pas sûre.
A priori, c'est ce qu'on nous disait.
Dans l'armée, c'est strict.
C'est strict, oui.
Maintenant, c'est très strict.
Tu as un micro, il faudrait que tu parles plus dans le micro.
Je dis que maintenant, dans l'armée, c'est très strict.
Je ne connais pas la situation précise de l'armée, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que dans un certain nombre de ministères de la fonction publique, on constate des écarts salariaux qui sont liés à des déroulements de carrière, qui sont forcément... Il y a peut-être moins de femmes aussi dans l'armée, donc le contingent n'est pas le même.
Il y en a de plus en plus, c'est ce qu'on nous disait.
Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas autant que chez les enseignants et enseignantes.
Oui, c'est vrai.
93% sont des femmes.
Des femmes en AESH.
En AESH. C'est assez un métier très féminisé.
Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les salaires sont aussi bas aussi. On voit bien ce qui s'est passé à l'occasion de la crise du Covid. On a vu quand même tous ces métiers qui sont essentiels, qui sont essentiellement assumés par des femmes. Ce qu'on appelle les métiers du lien, du soin, de l'éducation sont considérés comme un prolongement naturel de ce que les femmes font gratuitement dans la sphère privée et donc font l'objet d'une difficulté à être revalorisées au plan salarial.
Et reconnues au niveau national par l'ensemble des personnes qui font les salaires et qui peuvent reconnaître personnellement AESH depuis 16 ans. Le métier n'a toujours pas de statut. Je trouve ça choquant.
Statut. Oui.
Statut tout simple.
Comme beaucoup de personnes de l'enseignement, enfin dans le même autre de l'enseignement, dans le service public, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de statut véritable.
Alors oui, dans l'éducation nationale, on est quand même, il n'y a pas que des enseignants, il y a des enseignants contractuels. Ça c'est aussi quelque chose qui vient d'émerger à cette rentrée, mais on en parlera peut-être
on
après.
On en parle tout après.
Oui. Voilà. Après sur la question salariale, pour conclure, quand même de manière générale, c'est une préoccupation très forte aujourd'hui chez les personnels, et c'est d'ailleurs un sujet qui les a mobilisés très récemment lors d'une grève le 27 septembre. Et puis là, nous, en tout cas, on a lancé au niveau de mon organisation une pétition en ligne qui a d'ores et déjà recueilli plus de 37 000 signatures en même pas 15 jours.
Donc c'est un sujet... SNUIPP, hein,
SNUIPP-FSU. Donc c'est un sujet qui préoccupe largement nos collègues parce qu'on voit bien qu'il y a eu une dégradation constante.
Il y a le problème salarial, mais il y a aussi le problème du paiement en temps utile, en temps honneur. Parce qu'il y a énormément enfin, les salaires ne sont pas payés en temps et en heure.
Ah bah, il y a toujours des retards. Je pense que c'est pour tous les fonctionnaires.
Oui, mais enfin, dans le corps enseignant, moi, je le vois véritablement, puisque mon fils l'étant. Nous, on n'arrête pas de l'aider, parce que ce n'est pas possible.
Alors, ça percute...
Ils lui doivent 600 euros par mois depuis le début de l'année.
Ça percute, on va dire, les personnels les plus précaires, déjà en premier lieu, hein, parce que c'est quand même les personnels les plus précaires qui sont les plus maltraités au plan de l'institution. Et puis après, chez les personnels, on va dire, titulaires, après, ça peut être par rapport à des versements qui sont effectués, notamment sur des primes. Après, le salaire fixe en tant que tel, il est versé à échéance normalement régulière.
Pas régulière
et
du tout.
Il peut y avoir des accidents.
Les accidents sont réguliers. Hein. Réguliers. Il a jamais son salaire en temps utile. Jamais. Et ça, je veux dire, on en a encore parlé hier, puisqu'il repart demain. Là. On a encore parlé hier soir parce qu'il vient de voir son salaire sur son...
Mais il ne devait pas être content.
Et il a encore moins, mais régulièrement. Là, il est encore 70 euros en moins.
Alors après, la grosse difficulté, elle porte surtout sur les indemnités, les primes qui parfois ne sont pas versées alors qu'elles sont dues.
Ça, c'est évident.
Et où il y a effectivement des retards cumulés et où il y a des accidents de paiement régulièrement.
Il y a des choses qui ne se font pas au niveau de l'administratif.
Donc il faut être très vigilant au niveau de sa fiche de paye.
Il faut être vigilant au niveau de sa fiche de paye. Et puis surtout, on a des personnels administratifs qui sont de moins en moins nombreux. Ça aussi, il faut en parler. C'est-à-dire qu'on a des personnels qui gèrent les payes.
Les payes
qui sont dans des services qui sont mutualisés, qui gèrent de plus en plus de dossiers. Donc ça aussi, ça entraîne une difficulté.
Mais ça a toujours été le récurrent que l'éducation nationale soit le plus mauvais payeur. Hein.
Oui, c'est un payeur qui n'est pas exemplaire.
C'est pour ça que malheureusement, on voit de moins en moins de gens qui, au niveau des salaires et au niveau de ce qui se passe, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens qui ne veulent plus être dans ce type de métier.
L'attractivité descend, effectivement.
Bien sûr, l'attractivité, elle n'y est plus.
Alors, on va parler des autres personnels de l'éducation nationale qui ne sont pas en reste, que ce soit les ATSEM, les RASED, les AESH, et où il y a un manque crucial avec une pénurie dans certaines écoles. Certains enfants se retrouvent sans aide personnalisée. D'autres enfants ayant un handicap plus lourd ne pourront pas se rendre donc à l'école. Alors, on va donner un exemple que j'ai lu. Là. Alors, il y a des AESH qui doivent passer titulaires en CDI au bout de 6 années d'expérience. Et nous avons des académies qui, volontairement, vont mettre fin à certains contrats. Alors, quel résultat pour les enfants qui ont un handicap et que faire pour améliorer l'inclusion de ces enfants dont on parle depuis 2005? Tu peux me répondre, Véronique, là-dessus?
Alors pour moi, la meilleure façon de répondre aux besoins des enfants qui ont besoin d'un accompagnement scolaire, ce serait d'avoir un véritable salaire pour les AESH. Comme ça serait attractif et il y aurait des AESH qui postuleraient. Le problème, c'est que l'emploi étant passionnant, c'est un fait, mais difficile, compliqué, les AESH ne restent pas. Beaucoup de mes collègues démissionnent au bout de quelques années, voire une seule année, parce que c'est un travail financièrement qui n'en vaut pas la peine.
Et toi, ça fait combien de temps que tu...
Moi,
que
ça
tu
fait fais... 16 ans.
Ça fait 16
Je
ans,
tiens oui. le coup parce oui. que ce travail me plaît, j'aime beaucoup le faire, mais j'ai vu les conditions se détériorer depuis 16 ans. Avant, j'accompagnais un élève.
Et maintenant, c'est des fois plusieurs.
Là, j'en ai 8. Cette année, j'accompagne 8 élèves.
On voit bien là la pénurie quand même. Hein.
Donc on émiette l'accompagnement. L'accompagnement ne se fait plus de façon régulière et fiable pour l'élève. L'élève ne sait plus forcément qui va venir pour l'accompagner en classe, puisque c'est un morcellement de l'accompagnement. Un coup c'est un tel, un coup c'est un tel. On change. Parfois on accompagne plusieurs élèves dans la classe. On est au milieu des élèves. En collège, c'est terriblement perturbant parce que le professeur fait son cours. Et j'ai une image en tête. le professeur dit un mot que mes deux élèves ne comprennent pas. Qui est-ce que j'aide ? Celui de droite ou celui de gauche ? Lequel va avoir le droit de pouvoir continuer à comprendre le cours du professeur ? Je ne peux pas le dire en même temps aux deux, je ne peux pas arrêter le cours. Donc le fait d'avoir plusieurs élèves en même temps gêne l'accompagnement. Les deux élèves sont mal accompagnés et moi, à la sortie du cours, je suis frustrée parce que l'accompagnement s'est mal fait. Donc j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail. Et ça, c'est l'installation du PIAL qui a créé ça. Le fait de mutualiser l'accompagnement, d'accompagner plusieurs élèves en même temps, on ne le fait plus correctement notre travail. Avant, jamais je n'accompagnais plusieurs élèves en même temps. J'accompagnais un élève, plusieurs heures, quelques heures, beaucoup quand il y avait besoin de beaucoup, moins quand il y avait besoin de moins d'heures pour l'élève, mais j'étais avec un élève. Maintenant, je peux être avec plusieurs.
Alors, moi, je vois un cas à côté de chez moi, hein, la MDPH, donc Maison départementale des personnes ayant un handicap, et non handicapé, comme ils le disent à chaque fois, ayant un handicap. La MDPH avait donné, on va dire, 18 heures d'AESH pour accompagner cet enfant. Par manque d'AESH, il n'a que 8 heures. Donc, on voit bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. Si la MDPH donne des heures, automatiquement, l'éducation nationale, si on veut faire une inclusion convenable d'un élève, doit se fixer à ce que demande la MDPH. Alors, moi, il y a un truc à la MDPH qui m'a toujours un petit peu gênée pour les AESH. On dit souvent, ils ont besoin d'une aide matérielle et d'une aide humaine. Ça me dérange quelque part qu'on parle de vous en... C'est une aide humaine, mais on ne peut pas vous dire autre chose. Ça me choque, moi. Moi, ça ne vous choque pas, vous, aide matérielle, aide humaine? Moi, ça m'a toujours choquée.
Oui, si on le compare à l'aide matérielle, voilà, c'est vrai que ça peut être choquant. Mais c'est vrai que c'est une distinction qui peut être faite. Je vois beaucoup d'élèves qui ont besoin d'un ordinateur pour réussir à suivre une scolarité. Donc là, c'est l'aide matérielle. Et on voit bien. Mais à côté, il y a besoin d'une aide humaine aussi pour apprendre à se servir d'un ordinateur et à bien l'utiliser dans la classe et à être performant pour réussir à faire les cartes en histoire géo, à bien les colorier sur son ordinateur. On ne peut pas savoir le faire comme ça directement.
Mais souvent, il n'y a pas des ergothérapeutes qui viennent en classe?
Alors, les ergothérapeutes peuvent venir dans l'établissement, mais pas en classe. En classe, c'est l'AESH qui peut accompagner l'élève et lui expliquer comment ranger son ordinateur. Ça, c'est souvent fait par l'ergothérapeute. Mais c'est vrai que des fois, il y a aussi un grand manque d'ergothérapeutes. Donc, certains élèves ne peuvent pas avoir une formation complète sur leur ordinateur.
Alors là, c'est vrai que face à une pénurie de personnel AESH, des familles accompagnées par des associations qui ont parfois des conventions avec l'éducation nationale, deviennent employeurs d'AESH privés pour assurer la scolarisation de leurs enfants. Je pense notamment, c'est l'association Sacha, je crois, qui fait ça. Et nous avons donc un accompagnement scolaire privé qui est un surcoût pour les familles. Mais si on se souvient bien, les premières auxiliaires de vie scolaire sont apparues vers 2000, peut-être même avant. Et le 10 avril 2003, il y a eu donc un projet de loi qui a créé le statut d'assistante d'éducation. Mais avant, c'est la FNASEF. Alors, la FNASEF, c'est Fédération nationale pour l'accompagnement scolaire des élèves présentant un handicap, qui s'est investie pour la mise en place des auxiliaires d'intégration scolaire. Et avant 2003, dans 63 départements, des associations fédérées à cette FNASEF étaient gestionnaires de 2300 AVSI. Donc, c'est des auxiliaires de vie,
scolaire,
indépendante.
Individualisée,
pardon. Je savais que je disais une bêtise encore. Dans le cadre du dispositif emploi jeune, le statut d'assistante d'éducation AED a été créé en 2003 et les associations se sont séparées de leurs salariés. Cette formule revient à la mode face à la pénurie d'AESH. Au niveau éthique, est-ce que cela pose la problématique de l'égalité pour tous? Qu'en pensez-vous? Le fait de mettre en plus du privé dans le public, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Sophie, au hasard.
La problématique de l'inclusion, c'est une problématique qui est assez vive hein, dans la période. Hein. Beaucoup d'interrogations parce qu'elle se fait, on va dire, dans de mauvaises conditions, à la fois pour les élèves, mais aussi par rapport au personnel de l'éducation nationale et aussi les familles. Alors, bien évidemment, à partir du moment où la loi impose à l'éducation nationale de scolariser les enfants en milieu ordinaire, c'est à l'État de prendre en charge l'accompagnement de ces élèves-là. Alors moi, je préfère parler d'accompagnement personne plutôt qu'une aide. Après, c'est en lien avec la logique de compensation, aide matérielle, aide humaine. Bon, je ne sais pas, sur le débat sémantique, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je préfère parler d'accompagnement. Mais cet accompagnement, bien évidemment, alors qu'on sait qu'il y a déjà une école qui reproduit des inégalités scolaires qui sont liées à des inégalités sociales, hein, par ailleurs. Hein. On n'arrive pas, on va dire, à compenser l'écart qu'il peut y avoir entre les enfants qui viennent de milieux favorisés et de milieux défavorisés. C'est évident que sur un sujet comme l'inclusion scolaire, quand un élève est notifié, il doit pouvoir être accompagné et accompagné par un personnel employé par l'État. Bien évidemment, il n'est pas question de renvoyer aux familles cette responsabilité.
Un surcoût, surtout.
Là, voilà, ça, et de générer un surcoût, et donc qui ne peut pas être pris en charge par certaines familles.
Bien sûr.
En gros, il y aurait effectivement, on va dire, une inégalité très importante en fonction des moyens socio-économiques de chaque famille. Donc, moi, je plaide, et on plaide, de toute façon, pour que, un, les personnels AESH soient revalorisés, parce que ce sont quand même les grandes oubliées hein, là, des annonces ministérielles.
Oui, hein. Oui.
À ce stade, on a quelques annonces sur les salaires qui nous posent question. Mais ce qui nous pose encore plus question, c'est que les personnels les plus précaires dans l'éducation nationale sont les oubliés totales des propositions de revalorisation salariale. Mais là, et si on ne trouve pas les personnes, c'est parce qu'on ne les paye pas en suffisance.
Et là, c'est pareil, la question que je me posais, c'est très bien ce que font ces associations. C'est vraiment pour venir en aide aux enfants qui en ont le plus besoin. Mais par contre, si il y a trop, d'AESH privés, hein, j'appelle ça privé, est-ce que justement ça va permettre à l'État de ne pas aller essayer d'augmenter les salaires et en fin de compte se retirer toute responsabilité là-dessus. Donc voilà, c'est ça.
Délégué et privatisation des AESH.
Ça peut être assez dangereux justement pour l'inclusion des enfants ayant un handicap, effectivement.
Il y a eu des essais à une époque où on n'était pas encore AESH mais AVS. Certaines associations étaient chargées de payer les AVS qui travaillaient dans les établissements scolaires. Mais ça n'a pas duré longtemps puisque ces associations n'ont pas été payées. Ce qu'elles devaient recevoir.
Alors juste une petite question avant d'écouter l'intermède musical. Les réformes qui se suivent sans bilan, sans apporter une aide efficace, que ce soit du côté des professeurs ou des élèves, les fermetures de classes dans le public, des brigades numériques de remplacement constituées d'enseignants titulaires qui n'exerceront qu'en visioconférence, des professeurs non remplacés, des contractuels manquants dans les classes, sans compter pour les transports scolaires le manque de chauffeurs. Comment réagissez-vous à ce topo qui n'est pas exhaustif ?
De toute façon, ce qu'on constate, bon, le tableau est assez noir, hein, tel qu'il est brossé. Ça pourrait pousser à une forme de pessimisme, mais bon, moi, j'ai la force de l'optimisme, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis engagée. Après, ce qu'on constate, c'est que la volonté quand même de ces réformes successives qui ont quand même contribué à dégrader la qualité du service public, c'est de favoriser le privé. Il y a quand même une manne financière importante autour des sujets d'éducation. On vient de parler de désengagement possible de l'État en matière d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Mais de manière générale, l'État cherche à se désengager d'une mission qui est quand même fondamentale. Donc bien évidemment, ça nécessite qu'on se mobilise et qu'on porte une ambition pour l'école. En tout cas, moi, mon organisation, elle continue de travailler et de s'engager à ce que l'éducation nationale soit améliorée dans son fonctionnement au quotidien. Là, bien évidemment, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc quand on dégrade la qualité du service public, après, on remet en question son existence même. On a bien vu ce qui s'est passé avec le service public hospitalier. La dégradation du service public hospitalier public a contribué à l'essor des cliniques privées qui, elles, ne sont pas là pour assurer une mission de service public. Mais là, enfin, elles sont là aussi pour rapporter de l'argent à des actionnaires. Donc, bien évidemment, il y a un combat à mener pour qu'on revienne vers un projet ambitieux d'éducation et qu'on y remette les moyens. Mais ça, c'est un combat de longue haleine.
Oui, et puis qu'on se rappelle pourquoi que l'école a été créée.
Une pause musicale.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Notre thème du jour, les oubliés de l'éducation nationale. Pour cela, nous recevons Madame Abraham Sophie, enseignante, déléguée SNUP IPP FSU pour le secteur de Crépy-en-Valois, et Madame Aubigny Véronique, AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Avant de passer la parole à Jackie pour son billet d'humeur. Nous venons d'entendre les oubliés de Gauvin.
Oui, alors le billet d'humeur, on va commencer
par... De bonne ou de mauvaise humeur ? À te voir.
Ça peut être des deux. Il y a aussi peut-être aussi à se poser des questions et peut-être, j'espère, un optimisme. Mais il y a deux citations, notamment une citation de... notamment Nelson Mandela, qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Et l'éducation est la base de la réussite des individus et des sociétés. Donc à la vue de ce qu'on évoque aujourd'hui, on note bien les difficultés de tous ces personnels. La disparition pour certains, enfin l'équivalent de la disparition pour certains, notamment dans la santé, médecins, infirmières, qui sont de plus en plus malheureusement absents dans les établissements, ou très peu dans les établissements. Mais aussi le manque de repères de tous ces personnels dans la société. Donc le manque de reconnaissance qu'on avait il y a bien longtemps. Et donc, puisqu'on revient, le sujet quand même prioritaire, c'est l'enseignant. L'enseignant avait un statut, ou non, j'ai vu deux documentaires il y a peu de temps, donc l'enseignant avait un statut bien spécifique il y a bien longtemps au niveau de la société, au même titre que le maire ou le curé. Donc ça, c'était quelque chose qui était bien ancré dans la société. Et là, on voit que notre système scolaire et l'école moderne l'a remis au rang, pour moi, de simple intervenant, malheureusement. Donc il y a peut-être une question à se poser sur l'avenir de ce métier. Et j'espère d'un point de vue positif.
Alors c'est très bien ça. On va voir un petit peu ce qu'ils vont devenir. Alors justement, les enseignants recrutés par Job Dating, on va en parler quand même un petit peu, hein, seront formés très rapidement. Hein. L'État a recruté 4500 contractuels, ce qui est énorme. L'objectif, tout en sachant que l'objectif des INSPE, donc c'est le lieu de formation hein, pour les futurs professeurs, est de fournir un bagage théorique de haut niveau, mais aussi d'accompagner l'entrée dans le monde professionnel des futurs enseignants, grâce à plusieurs choses. Par exemple, j'avais fait toute une liste des enseignements orientés vers la pratique du métier, familiarisant avec la future classe, vie de classe, de nombreux stages dès la première année de master, jusqu'à une véritable alternance en deuxième année avec un stage en responsabilité à mi-temps en école et en établissement scolaire. Au revoir Jackie, à la prochaine. Des cours partagés avec tous les autres futurs professionnels de l'éducation et une spécialisation progressive en fonction de son orientation. Donc, ce qu'on peut peut-être se demander, est-ce qu'on peut devenir prof en quelques jours ? Et surtout, quel impact sur l'apprentissage de nos enfants ? Effectivement, on peut se poser la question. Les nouveaux recrutés ne pourront pas approfondir tous les sujets ni leurs connaissances. Et on sait déjà que certains ont déjà démissionné après la rentrée, faute de formation ou de tuteur pour les accompagner. D'autres apprécient leur reconversion. Sophie, qu'est-ce que tu penses de ces job dating ?
Ah bon, ce que j'en pense, c'est pas forcément quelque chose de positif. Parce que déjà, ça laisse penser, on va dire, à l'intérieur de la société que n'importe qui peut devenir enseignant ou enseignante en 30 minutes d'entretien et en 4 jours de formation. Alors que le métier d'enseignement, c'est un métier qui s'apprend.
Combien de temps à l'INSPE ? Combien d'années ?
Alors actuellement, c'est un an de formation, un an de formation qui à la fois alterne de la théorie et de la pratique. Alors bien évidemment, un an, ça peut paraître beaucoup, sauf que ça dépend. Il y a des statuts très différents selon les modalités de recrutement. Aujourd'hui, on a plein de gens sur le terrain qui sont stagiaires, mais qui ne sont pas stagiaires selon les mêmes modalités. Il y en a qui sont à 100% du temps dans une classe, d'autres qui sont à 50%, d'autres qui sont en alternance. Des collègues qui, là, viennent d'être recrutés en tant que personnel contractuel, qui, eux, sont à temps complet et ont eu 4 jours de prise en main avant la rentrée. Donc, bien évidemment, enseigner, c'est un métier qui s'apprend et qui s'apprend sur du temps long, qui s'apprend avec une formation initiale conséquente, qui à la fois articule des temps sur le terrain, mais aussi des temps d'apprentissage théorique. Et donc ça, c'est dispensé au sein des INSPE. C'est aussi l'apport de la recherche qui nourrit notre réflexion pédagogique. Et c'est aussi de la formation continue. C'est-à-dire que quand on est devenu enseignant à l'issue de la formation initiale, c'est pas terminé. On continue, bien évidemment, à se former tout au long de sa carrière. Donc on en a parlé tout à l'heure, la formation continue est aussi un pan complètement délaissé par notre employeur aujourd'hui. Donc non, on ne peut pas dire que n'importe qui peut se présenter pour devenir enseignant, enseignante. Il y a des concours de la fonction publique qui ont un haut niveau d'exigence. Alors après, se pose la question de l'accès démocratique à ces concours. Le fait d'avoir élevé le niveau de recrutement a mis à l'écart un certain nombre de jeunes qui pouvaient se destiner au métier de l'enseignement. Donc ça nécessite qu'on mette en place des pré-recrutements avant le concours et qu'on place le concours de manière à le rendre accessible à davantage d'étudiants et d'étudiantes. Aujourd'hui, on n'a plus le vivier. Aujourd'hui, pourquoi on a 4000 postes qui sont vacants à la rentrée 2022 ? C'est parce que, le métier ne fait plus rêver. Il ne fait plus rêver parce que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Les conditions salariales sont dégradées. Et puis aussi parce que les étudiants et les étudiantes qui se destinent à des études d'un niveau élevé, bac plus 5, ils ne vont pas venir passer le concours de professeur des écoles. Mmh. Ils vont aller vers d'autres métiers de la fonction publique catégorie A, vers d'autres concours de catégorie A qui sont plus rémunérateurs. Et, ou alors, ils vont alors se destiner au secteur privé dans des emplois de cadres qui sont mieux rémunérés. Donc, il y a vraiment une nécessité, de revaloriser les métiers au niveau des conditions de travail, au niveau des salaires, nécessité de permettre à davantage d'étudiants et d'étudiantes de préparer les concours pour rendre à nouveau le métier attractif.
Et là, au niveau des enseignants recrutés par Job Dating, on leur demandait quel diplôme ? Un bac plus 3 ou bac plus 5 ?
Alors, j'ai pas cette information-là en tête. Moi, j'ai été restée à un niveau bac plus 3, mais peut-être que l'exigence est passée en dessous du seuil du bac plus 3. Hein. Jusqu'à présent, les contractuels qui étaient recrutés, nous, dans le département, puisqu'on en a hein, dans le département de l'Oise, on est un département déficitaire en personnel, le niveau de recrutement, c'était bac plus 3. Bon, après, on a eu une diversification des modalités de recrutement. Hein. Depuis quelques années, on a un concours qui s'appelle le concours 3e voie, qui permet à des personnes qui ont 5 ans d'exercice professionnel dans n'importe quel métier de pouvoir passer le concours. Mais là, c'est une entrée par concours. De mon point de vue, je crois qu'on est resté sur le niveau bac plus 3. Mais après, ce n'est pas le problème. On peut avoir un bac plus 3, mais pas forcément avoir, on va dire, les aptitudes professionnelles pour enseigner.
Oui, parce que ce n'est pas évident de parler devant 28 ou 30 élèves.
Hein. Ben, ce n'est pas un métier qui s'improvise.
Ça, c'est clair. Moi, je sais que bon, dans l'énergie jeune, on prend tous les ans des nouveaux collègues qui viennent avec nous. Et je sais que certains, au bout de 2 ou 3 séances qu'on fait dans des collèges, nous disent « Non, moi, je ne me sens pas capable. » Donc, on ne les revoit pas, quoi. C'est pas du tout évident.
Bah, confronté à l'ampleur de la tâche, effectivement, ça peut avoir un effet rebutoir. C'est-à-dire que les gens se présentent, ils ont une représentation du métier de l'enseignement. Hein. Là, on l'a vu, à la faveur du confinement, les familles ont eu à prendre en charge les tâches éducatives à la maison, hein, ce qu'on a appelé l'école à la maison. Donc, ils se sont dit, bah, pourquoi pas, je vais tenter. Mais quand on arrive sur le terrain et qu'on est confronté à la réalité de la classe, d'avoir à gérer, on va dire, un effectif relativement élevé d'élèves avec beaucoup de disparités en termes de niveau, une hétérogénéité, c'est quelque chose, il faut avoir été formé pour ça.
Ah bah c'est sûr.
Et c'est pas en 4 jours qu'on est apte à prendre une classe en main. Donc ça se construit et bien évidemment, il y a des collègues qui se découragent très rapidement. Après, il y en a qui s'accrochent, à quel prix ? On va dire, ça leur demande un temps très conséquent de préparation quotidienne de la classe. Et on les met face à des difficultés très importantes. Et on met aussi les élèves en difficulté.
Oui. Tout à l'heure, je parlais des brigades numériques de remplacement constituées d'enseignants donc titulaires qui n'exerceront qu'en visioconférence. Alors ça va se faire, je crois, c'était du côté de Nancy que j'avais lu ça. Et donc, face au tollé général, au départ, il devait y avoir 16 séances. Il n'y en aura plus que 7. Et donc, ça risque de ne pas se généraliser dans ce département. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'on avait vu un petit peu pendant le confinement, que ce n'était pas tout à fait fiable de donner des cours comme ça par visio.
Là, on est sur l'expérience de l'Académie de Nancy, sur une expérimentation qui est dans la continuité de ce qui s'est mis en place au moment du confinement. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on pourrait effectivement assumer des missions d'enseignement à distance et donc faire des économies budgétaires, parce que derrière, c'est bien évidemment ça qui est visé. Quand vous mettez face à des élèves dans une salle de classe, à un prof à distance avec un cours en visioconférence, ça ne coûte pas le même prix que de mettre un enseignant en poste face à ses élèves. Mais alors, on a bien vu ce que ça a donné au moment du confinement. C'est-à-dire qu'au moment du confinement, on a un certain nombre d'élèves qui ont décroché. Les cours en visioconférence ne donnent pas du tout le même résultat que quand on est en présence devant les élèves. Donc bien évidemment, c'est une expérimentation qui est vouée à l'échec du point de vue de la réussite des élèves. On ne remplacera jamais un enseignant qui est en médiation directe avec les élèves dans une classe par un enseignant à distance. C'est un leurre. D'ailleurs, on le voit, ce type d'enseignement a beaucoup été développé dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de cours dans l'enseignement supérieur qui sont assurés à distance. Et les élèves les plus en difficulté, ceux qui ont du mal à s'accrocher et qui ont besoin du soutien et de l'étayage direct de l'enseignant, décrochent très rapidement. Donc non, en termes de qualité d'enseignement, c'est pas du tout l'avenir, l'enseignement numérisé.
Oui, puis il y a un manque peut-être de dialogue aussi entre le professeur et l'élève.
Ah bah les échanges et les interactions sont de nature complètement différente entre la visioconférence et la vie dans la réalité. Hein. On le voit bien dans différents métiers où on travaille en visioconférence. Bah c'est pas pareil que la relation directe. Mmh. On traite pas les informations et les choses de la même manière quand on est en interaction directe et quand on est à distance. Donc bien évidemment, nous on est vent debout contre ce type d'expérimentation.
D'accord. Et ça se passe comment avec les enfants qui ont un handicap, par exemple, devant un ordinateur? Alors, c'est vrai que parfois, c'est très bien parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une aide. Mais dans ce cas-là, je suppose que ces enfants ont toujours besoin de quelqu'un près d'eux. Donc, on imagine si un jour on met ces brigades numérisées ou numériques, ça se passera moins bien pour eux.
Ah, tout à fait.
Beaucoup plus de difficultés.
Je pense que la fracture numérique est aussi un problème qui est encore plus visible pour les enfants en situation de handicap. Mais pendant la période de confinement, j'ai accompagné des élèves qui n'arrivaient pas à suivre le travail qui était donné à distance. Les parents avaient besoin d'avoir quelqu'un au téléphone avec eux pour les encourager à se mettre au travail et avoir une écoute individuelle de l'élève.
D'accord,
donc ouais, je pense que le travail à distance est encore plus perturbant pour des élèves en situation de handicap.
D'accord. Des parents s'inquiètent du devenir de leurs enfants face aux réformes successives qui n'améliorent en rien le niveau de l'enseignement. Au regard des résultats PISA 2018, nous sommes dans la moyenne de l'OCDE, mais bon, on peut se demander est-ce que c'est suffisant. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, effectivement, on entend beaucoup de parents qui trouvent que le niveau de l'enseignement baisse d'année après année. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Sophie? Est-ce que tu trouves que ça baisse réellement ce niveau? Parce que c'est vrai que les parents se plaignent toujours en disant on a vraiment l'impression que le niveau, c'est plus à la hauteur, quoi. Les enfants ont de plus en plus de problématiques pour apprendre à lire, à compter, etc. Donc, surtout au niveau du français, je crois qu'il y a des gros problèmes au niveau de syntaxe et tout en français.
Alors, je crois qu'il faut battre en brèche une idée fausse qui est celle que le niveau général baisse. Ça, c'est faux. Le niveau général des élèves ne baisse pas. En fait, ce qui donne l'impression que le niveau baisse, c'est que les inégalités se creusent de plus en plus, notamment entre les enfants des milieux les plus favorisés, dont les taux de réussite, eux, continuent à augmenter, alors que parallèlement, le niveau des élèves les plus défavorisés, lui, ne fait que se dégrader. Parce que les réformes successives dont on a parlé tout à l'heure, hein, notamment le recentrage sur les fondamentaux et donc l'abandon, on va dire, d'une certaine forme d'ambition scolaire avec les moyens qui doivent l'accompagner, font que, de toute façon, le système éducatif, de manière générale, continue à reproduire de manière très forte les inégalités entre les élèves. Donc le niveau général ne baisse pas. Hein, quand on regarde les taux de réussite au bac, aux examens nationaux, on n'a pas une baisse généralisée du niveau de réussite des élèves. En revanche, le décrochage, il est de plus en plus important. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Donc aujourd'hui, il va falloir à un moment donné que la société se pose la question de l'ambition qu'on porte au niveau de l'école. Est-ce qu'on veut faire réussir tous les élèves ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui prennent les décisions au plus haut niveau ont dans l'idée d'abandonner toute une partie de la population scolaire pour l'amener vers, on va dire, une employabilité, une adaptation aux besoins du marché de l'emploi. Donc il n'y a pas besoin de former des élèves de haut niveau pour ça, effectivement. Mais il y a une ambition pour une petite minorité. Donc le système, il est profondément inégalitaire, mais le niveau général, contrairement aux sonnettes d'alarme qui sont sonnées régulièrement, ne baisse pas en tant que tel. Et en plus, l'éducation nationale a diversifié, on va dire, les apprentissages. On a effectivement de plus en plus de missions à assurer. Il y a les fondamentaux, mais il y a aussi tout ce qui est à prendre en considération à côté, hein, le fait de développer l'esprit critique du citoyen et de la citoyenne, éduquer à un certain nombre de valeurs. Donc cette ambition-là, elle doit être portée de manière importante pour toutes et tous, et ça suppose qu'on mette en place réellement un plan d'urgence pour l'école.
Mais qu'est-ce que tu penses du redoublement ?
Alors, la question du redoublement, c'est effectivement un marronnier qui revient régulièrement. En fait, si on fait redoubler les élèves, c'est pas parce que les élèves n'ont pas de capacité, c'est parce qu'on les met en difficulté à un moment donné. Moi, je suis pas une fervente défenseuse du redoublement. Je pense qu'à un moment donné, si on met en moyen tout ce qu'il faut pour que l'élève réussisse, y compris qu'on remette en place ce qu'on a supprimé, le dispositif des RAZ, ce qui était l'accompagnement à la difficulté scolaire des élèves, ben les élèves ne redoubleront plus. On a abandonné tout le pan de la prévention. Les personnels de réseau d'aide prenaient en charge la prévention des difficultés, l'accompagnement des élèves qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, on ne les a plus. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de l'inclusion scolaire, mais on a fait dériver petit à petit la difficulté scolaire vers une forme de médicalisation. Ces élèves-là n'ont pas de problème médical. Ils ont un problème parce que l'institution scolaire, aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle fonctionne, ne leur permet pas de réussir. Donc si on remet en place les personnels, si on redéveloppe une ambition pour l'école, on aura moins besoin de faire redoubler les élèves.
Mais je ne dis pas un redoublement de toutes les classes, je vais être plus précis. Puisque moi, quand je vais dans certaines classes de 6e, je m'aperçois que certains 6e ne savent pas lire et écrire. Et arriver en 6e sans savoir lire et écrire, c'est grave.
Oui.
Parce qu'ils ne peuvent
pas
suivre les
cours.
Donc moi, je parle surtout du redoublement en primaire.
Oui, mais
afin que les élèves arrivent en 6e, entre guillemets, formés. Quoi.
Mais je pense que si ces élèves-là arrivent en échec en 6e, c'est parce qu'on n'a pas mis en place en amont tout ce qu'il faut pour leur permettre de ne pas redoubler ou de ne pas se retrouver en échec à l'entrée de la 6e. Si on avait un système éducatif avec des effectifs moins importants dans les classes, si on avait des personnels permettant d'accompagner ces enfants-là quand ils rencontrent les premières difficultés, on n'aurait pas besoin de les faire redoubler. Alors, le redoublement a quand même une forme de stigmatisation. C'est quand même une forme de stigmatisation des élèves et d'échec.
Aussi.
Enfin, ça renvoie l'élève et la famille et l'école à une forme d'échec. Donc cet échec scolaire, il peut être traité. Mais pour être traité, il faut donner les conditions qui le permettent. Aujourd'hui, on ne les a pas. Quand on fait de l'aide personnalisée aux élèves sur le temps de midi, je ne pense pas qu'on aide les élèves à lever leurs difficultés. En revanche, si on avait des personnels formés, en nombre suffisant, qui prennent en charge dès l'apparition des premières difficultés.
Les premiers symptômes, ouais.
Voilà. Enfin, avant, moi, je connaissais des personnels de prévention, de réseau d'aide, qui intervenaient dès la maternelle,
oui.
En prévention. Voilà. Mais aujourd'hui, eh ben, bien évidemment, le constat qui est fait, c'est qu'il y a des élèves qui arrivent en échec au collège parce que tout ce qui était mis en place auparavant ne l'est plus, ou plus suffisamment.
Et pourtant, ils ont mis en place des classes ULIS et SECPA. Bon, souvent en nombre, pas assez suffisant, n'est-ce pas ? Nous, on se rend compte qu'effectivement, dans certaines villes, il y a beaucoup de classes ULIS. Et donc, arrivé au collège, dans cette même ville, il n'y a qu'une classe ULIS. On fait quoi des élèves ? Admettons, s'il y a 5-6 classes ULIS en primaire et qu'il n'y a qu'une classe ULIS en collège, bon, ça veut dire qu'il va y avoir des enfants qui vont pouvoir aller dans cette seule classe de collège ULIS, mais les autres, on les dispatche où ? En SECPA, on en fait quoi de ces jeunes ?
Ils se retrouvent en collège ordinaire, accompagnés d'une AESH, mais avec une difficulté qui est
énorme.
Phénoménale, parce
oui.
que moi, je me suis vu accompagner des élèves arrivant en 6e qui avaient un niveau de CE2, CE1, CE2. Ils savaient à peine lire, et ils étaient incapables de savoir ce que représentait une division. Donc, en 6e, les mathématiques, il y a un vrai programme avec des divisions à savoir bien maîtrisées. Mais là, c'est même la compréhension du système de la division n'était pas acquise. Mm-hmm.
Donc, ces retards, en fin de compte, scolaires, vont s'amplifier au fur et à mesure que l'enfant va passer de classe au niveau des collèges.
C'est de la maltraitance à enfants, là. Parce que les enfants se retrouvent dans une violence. Ils se retrouvent dans une classe où ils ne comprennent rien.
Mm-hmm.
C'est violent.
Mais psychologiquement, ça doit être compliqué.
C'est
même les contacts avec les autres élèves, ça doit être très compliqué parce qu'il est pris pour le nul, non ? Ça se passe bien à peu près.
Certains enfants s'adaptent très bien en dehors de la classe.
Mm-hmm.
Mais l'enseignement est pour l'enfant une violence insupportable. Il ne comprend pas pourquoi il est là et pourquoi on lui fait subir ça. Simplement parce qu'il n'y a pas assez de classe ULIS, comme vous disiez. Simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace ouvert pour les accueillir.
Et là, les fédérations de parents d'élèves s'insurgent contre ça, la SNU-IPP. Est-ce que vous êtes écouté vis-à-vis de la hiérarchie, du ministère, lorsque vous dites qu'il faut ouvrir des classes ULIS, il faut ouvrir des classes SECPA?
Alors, je crois qu'il y a une confusion entre ce à quoi répond l'ULIS et ce à quoi répond la SECPA. C'est pas le même.
C'est deux choses différentes. Oui, tout à fait.
Et en fait, la difficulté à laquelle on est confronté depuis quelque temps, c'est qu'effectivement, le pan de l'adaptation scolaire, notamment les SECPA, est laissé complètement à l'abandon. Nous, on a eu la suppression, par exemple, de la SECPA de Crépy-en-Valois il y a déjà plusieurs années. Donc la nécessité de créer des dispositifs ULIS, elle répond aussi à une inflation croissante des notifications MDPH, mais qui questionne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'éducation nationale, aujourd'hui, on a tendance à considérer que la difficulté scolaire, elle dépend du handicap. Or, je pense qu'il y a des enfants qui dépendent strictement du handicap et des enfants qui dépendent de l'adaptation scolaire, qui ont besoin d'un accompagnement spécifique avec des dispositifs, réseau d'aide au niveau de l'école primaire et SECPA au niveau du collège. On a fermé des SECPA. On est en train d'abandonner progressivement tout le pan de l'adaptation scolaire qui n'est pas du même niveau, du même ressort que le champ du handicap. Les classes ULIS, on les a vues se multiplier quand même. Faut quand même dire qu'il y a eu un certain nombre de classes ULIS qui se sont ouvertes ces dernières années, qui sont peut-être pas au niveau de la réponse qu'il faudrait par rapport au nombre d'enfants ayant une notification de handicap. Mais moi, je pense que vraiment, là, il y a un enjeu central, c'est la question de l'adaptation scolaire. Aujourd'hui, les SECPA, elles sont vouées à la disparition complète. On considère qu'elles ne sont plus nécessaires, alors que moi, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas les conditions qui permettent aujourd'hui, dans les classes, de répondre à cet enjeu de l'adaptation scolaire. Si on avait les moyens pour le faire, ça se saurait et on ne se retrouverait pas dans la situation qu'a décrite Véronique, d'avoir des élèves qui sont dans une classe ordinaire, au mieux avec un accompagnement par une AESH, au pire par personne. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre les deux, et la difficulté scolaire et le handicap
sont deux choses bien distinctes
et que tous les élèves en difficulté ne dépendent pas de dispositifs du type ULIS. Il y a des enfants qui ont besoin d'un autre espace, et cet espace, aujourd'hui, il est rempli, cette mission, elle est remplie par les SECPA.
Il faudrait réinventer peut-être un autre genre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement?
Je pense qu'il faut déjà se baser sur ce qui existe. Les personnels qui, aujourd'hui, travaillent au niveau des SECPA font un travail absolument formidable. Ce sont des structures qui ont montré qu'elles obtenaient des résultats. Tout est améliorable. Moi, je pense qu'à un moment donné, si au niveau de l'école primaire, on remet en place tout ce qu'il faut pour assurer la réussite de tous les élèves, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de dispositifs d'adaptation scolaire. Mais sauf que là, pour l'instant, on est très, très loin de cette ambition que nous, on porte d'avoir des effectifs moins élevés, d'avoir des personnels accompagnant les élèves en difficulté, de mettre en place les aides, parce que ça peut être des aides internes, mais ça peut être aussi des aides externes, toutes les aides externes possibles, sans que ça suppose un coût et un investissement pour les familles. Bien évidemment, à partir de là, tout est imaginable, on peut tout réinventer. Mais il y a aussi des choses qui existent et des choses qui fonctionnent. Donc avant de les mettre en extinction, peut-être qu'il y a des choses à améliorer au sein de ces structures, mais en tout cas, elles ont prouvé qu'elles permettaient à un certain nombre d'élèves de continuer et de poursuivre une scolarité. Alors, au-delà de la SECPA, c'est plus compliqué, mais en tout cas, il faut se pencher de manière précise sur ce qu'elles ont fait, sur ce qu'il y a à améliorer, avant de dire on arrête tout et on met tout le monde en milieu ordinaire. Parce qu'il y a des enfants en milieu ordinaire qui vont se retrouver totalement délaissés.
Complètement perdus.
Et là, c'est pareil, on voit bien avec le système REP+, dans les écoles primaires, la CP, le CP et le CE1 se retrouvent donc avec des classes de 15-16 élèves. Donc, est-ce qu'il faudrait justement continuer ce genre de choses en CE2, CM1, CM2, pour essayer justement à ce que le professeur, qui n'ait que très peu d'élèves, puisse effectivement s'occuper de tous les élèves, par exemple? Est-ce qu'on a, parce que ça, ça va faire donc 3 ans à peu près hein, que ça existe, est-ce qu'on a un bilan là-dessus? Bon, les bilans, il n'y en a jamais, mais bon, est-ce que vous avez des informations là-dessus au niveau de la SNUIPP?
Alors, le dédoublement des classes, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé avec Blanquer. Hein. C'est quelque chose qui avait déjà été expérimenté auparavant. Alors, je ne sais plus sous quel ministère, mais en tout cas, on avait déjà eu des dédoublements de classes. Alors le dédoublement de la classe, ça donne des résultats si, parallèlement à ça, on met en place, on va dire, des innovations pédagogiques, si on permet au personnel d'avoir un haut niveau de formation, et ou si on modifie les pratiques, c'est-à-dire qu'on peut baisser les effectifs à 15, si on dispense un enseignement très rétrograde et pas du tout novateur, de toute façon, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Aujourd'hui, la baisse des effectifs avec l'application des méthodes Blanquer, ça ne fonctionne pas réellement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on revendique, par exemple, au SNUPP, c'est une baisse des effectifs partout. Parce qu'effectivement, avec moins d'élèves en classe, on peut faire un travail beaucoup plus
efficace.
Mais ce n'est pas forcément à 15, hein, par ailleurs. Hein, ça se discute, hein, 15 ou moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on pense qu'en dessous de 20 élèves par classe, c'est très bien. Ça permet de fonctionner sans avoir la pression de l'effectif en plus. Mais de toute façon, il y a plein d'autres possibilités. Nous, on avait défendu le dispositif du plus de mètres que de classe qui permettait de travailler différemment. Alors, pas forcément que de la co-intervention en classe, mais d'avoir des personnels surnuméraires dans l'école qui permettent à un moment donné de travailler différemment, d'organiser la classe et de travailler d'une autre manière. Bon, bah, ce dispositif-là, il a été abandonné très rapidement. Hein. Il a fait un passage éclair au ministère.
Je crois qu'il a fait un an.
Non, un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, mais 2-3 années maximum. Hein. Et il a été mis en extinction. Alors
oui, mais sans bilan, pareil.
Sans bilan. Toujours la même problématique. En fait, l'école, c'est le temps long. Hein. L'école, pour qu'elle fonctionne, elle doit fonctionner avec une forme de stabilité sur le temps long. Mais là, effectivement, on a des réformes qui se succèdent à un rythme complètement effréné et qui ne permettent pas de voir l'impact et les résultats sur les élèves.
Alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec ça. Hein. Comme dit Jean-Paul Brighelli, l'école fabrique une masse énorme de consommateurs semi-illettrés. Hein, c'est lui qui était l'auteur du livre « La fabrique des crétins ». Êtes-vous d'accord avec lui ou y a-t-il encore de l'espoir pour nos jeunes? Bon, on va dire qu'il y a de l'espoir, évidemment, tant qu'il y a des professeurs qui sont... Qui sont optimistes comme Sophie, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. Ouais, 2 minutes.
Bon, je pense qu'on ne partage pas du tout la vision réactionnaire de Monsieur Brighelli. Hein. Nous, on continue à porter l'idée que l'école doit être ambitieuse et qu'elle doit permettre la réussite de tous. Mais pour ça, bah, ça suppose que l'éducation nationale rémunère mieux ses professeurs, qu'elle elle arrête les réformes successives et qu'elle nous laisse travailler avec nos élèves et qu'on puisse porter cette ambition avec elles et eux.
Alors là, je voulais faire passer justement de Grégoire, prof. Est-ce que tu peux nous en mettre une toute petite partie? Écoutez bien les paroles.
Nous nous sommes connus de l'été à l'été, professeur disparu, mais au fond, à jamais, car si je parle et j'écris, si je sais qui je suis, si j'explique et qu'on soit, si ma vie se construit, si j'ai le cœur qui chante et des mots qui dessinent, si mon esprit invente, si mes doigts imaginent, c'est parce que vous avez su nous montrer la voie et sans vous avoir eu, on ne grandirait pas.
Alors c'est dommage, moi je pousse vraiment les gens à écouter cette, surtout les profs, à écouter cette chanson. C'est vraiment une hymne aux profs et je trouve les paroles très très jolies.
Eh bien, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Sophie et Véronique d'avoir participé à cette émission, qui sera diffusée pendant le mois de novembre, le vendredi 11 à 19h, le lundi 14 à 16h30, le samedi 26 à 17h et le mercredi 23 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera les lycées professionnels. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulsien.fr. Merci Luc pour la technique. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qu'il aura piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un moment, on est Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire, on sera tous...